Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois. Richard de Sèze.
Richard de Sèze, Marie-Charlotte du Bourblanc, Joshua Collin, donc, qui est l'auteur de Les Nouveaux Baptisés, Confidence d'une génération qui revient au Christ. Joshua Collin, dans cette première partie, ce qu'il y a de remarquable, c'est la manière dont, revenu en France, vous vous rappelez en fait tout ce qui avait été les traces de catholicisme providentiel ou hasardeux, suivant le point de vue dans lequel on se place, qui vous avait accompagné. Par exemple, en arrivant à Londres, il y a un copain très catholique qui est là et qui d'ailleurs va continuer, est encore votre ami, si je ne m'abuse, enfin si j'ai bien saisi. Et aussi, il y a le Chili. Et au Chili, vous êtes étonné par la manière dont la foi est comme l'air ambiant. C'est-à-dire, d'un côté, il y a les catholiques français, qu'on sent un peu traumatisé par la persécution religieuse continue depuis 1789, hein, entre les spoliations, les expropriations et les assassinats de masse. Évidemment, le mépris souverain dans lequel on tient le catholicisme et même le dédain, la haine recuite. On parlait tout à l'heure de ce député LFI voilà, qui est capable de voir la pédocriminalité d'il y a 50 ans, mais qui n'est pas capable de voir celle d'aujourd'hui. Et là, vous nous dites, en fait, dès mes premiers jours sur cette terre chilienne, cette omniprésence du divin me frappa sur les routes poussiéreuses, des images pieuses décoraient les rétroviseurs des véhicules et les taxis arboraient fièrement des autocollants représentant la Vierge del Carmen, patronne du Chili. Je découvris également ces pèlerinages extraordinaires qui rassemblent chaque année des multitudes de croyants venus de tout le pays. Celui de l'eau Vasquez attirait des centaines de milliers de fidèles qui parcouraient à pied, dans la poussière et sous le soleil, les 80 kilomètres séparant Santiago du sanctuaire marial. Familles entières, jeunes et anciens, riches et pauvres, marchaient ensemble dans la fraternité de la foi, unis par cette même confiance en la Vierge miraculeuse qui intercède pour ses enfants. En Europe, on a tendance à regarder avec condescendance ce catholicisme sud-américain. On le juge un peu folklorique, moins rigoureux dans ses formes liturgiques, plus théâtral que véritablement spirituel. Ça, c'est une... vous donc, qui avez parcouru la planète, c'est quelque chose qui vous frappe, qui vous navre?
Oui, ben, on se moque beaucoup des Sud-Américains en disant que leur catholicisme serait théâtral, folklorique et qu'il ne serait pas vraiment vécu. Au fond, moi, je trouve ça un petit peu condescendant de le voir comme ça, parce que la foi est omniprésente. Et moi, au Chili, c'est vraiment ça qui m'a frappé, c'est qu'en fait, Dieu est partout. Il déborde sur les places publiques, mais partout. Moi, quand j'étais adolescent et que j'allais acheter mes goûters après les cours, les caissières me bénissaient. Voilà, et elles priaient le chapelet tout en travaillant. Vous avez des icônes de partout, des crucifix partout. Et dans les stades aussi, vous avez des tifos à l'honneur de la Vierge Marie ou du Christ lui-même. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus omniprésent qu'en France, où le catholicisme est plus discret. Et moi, en rentrant en France, j'ai été assez choqué de voir que, en fait, voilà, on a des cathédrales magnifiques, on a des églises, enfin un patrimoine religieux qui est très fort, mais on n'a pas trop le droit de parler de ce qui a fait, en fait, ces édifices, c'est-à-dire la foi, et non pas un musée, quoi.
Et on se souvient tous avec émotion de Christophe Castaner. On se souvient de Christophe Castaner. On est dans un monde où on se souvient de Christophe Castaner. Je ne sais pas d'ailleurs si on se souvient vraiment de Christophe Castaner, mais Christophe Castaner qui, au moment où Notre-Dame avait flambé, avait expliqué très sérieusement « Notre-Dame n'est pas une cathédrale, c'est un commun ». Voilà. Et donc, il fallait arracher à l'édifice tout ce qui était son catholicisme pour ne plus retenir que le fait qu'il appartenait vraisemblablement au patrimoine de l'État depuis qu'il avait été volé et aux Français depuis qu'ils avaient l'habitude de le contempler. Il y a en France donc cette espèce de dédain du catholicisme et vous, au contraire, vous décidez de devenir catholique, vous faites ça sérieusement. Voilà, non seulement Dieu vous prend par la main pour vous faire entrer dans une cathédrale, mais ensuite, voilà, votre tante vous confie Youcat, un de vos amis vous dit en Terre Sainte, si je ne m'abuse, bon, bah, c'est bien, ça fait 3 ans que tu flirtes avec nous, maintenant fais les choses sérieusement, deviens catéchumène, et donc vous rentrez en catéchuménat. Un catéchuménat assez rapide, somme toute.
2 ans et demi, quand même.
Oui.
Donc, que j'estime être la bonne durée, voilà, ni trop court, ni trop long. 2 ans, c'est le temps qu'il faut pour s'approprier une religion, avoir un vrai temps de discernement aussi, et puis prendre le temps de découvrir, hein, que ce soit à travers des rencontres, des discussions, des lectures, à travers des pèlerinages, des retraites, des actions charitables au service des plus pauvres. Voilà, c'est vraiment le temps, à mon avis, qu'il faut prendre pour vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire et s'insérer dans la communauté catholique derrière. Parce que le vrai enjeu, c'est aussi qu'est-ce qui se passe après le baptême. Et vous avez des chiffres qui sont assez mauvais, où les évêques vous disent qu'environ 75% des catéchumènes repartent dans la nature dans les 3 ans qui suivent leur baptême, qui décrochent complètement. Et donc il y a un vrai enjeu que l'Église prend très au sérieux, qui est d'intégrer les catéchumènes aux communautés, leur laisser une place aussi dans les paroisses, pour qu'ils restent parmi nous.
En fait, et là, on sent aussi sans doute cette différence entre le catholicisme français, mais aussi, par exemple, les évangéliques français, c'est-à-dire que quand on rentre dans une paroisse, chacun y arrive individuellement, il a un rapport presque individuel à Dieu, au sacrement. Les paroisses ne sont pas vraiment des communautés, en fait. Il n'y a pas une agapé, comme chez les orthodoxes, après la messe. Il n'y a pas ce côté évangélique où, sur le parvis, tout le monde traque celui qu'il ne connaît pas pour aller lui serrer la poloche. Là, au contraire, on essaie d'éviter le curé qui est dans son aube en train de vouloir nous serrer la main. On se dit qu'on va perdre 10 secondes et qu'on va sans doute rater la dernière baguette à la boulangerie. Et ça, est-ce que ça fait partie, en tant que nouveau converti, nouveau baptisé, des choses que vous aimeriez changer dans l'Église de France ?
Moi, vous savez, j'ai été baptisé l'année dernière, donc ça fait même pas un an que je suis dans l'Église.
Bientôt un an.
Donc voilà, bientôt un an.
Voilà, vous êtes français, ça fait même pas un an que vous êtes dans la baraque, vous savez déjà comment faire pour la réformer, quoi.
Oui, oui, mais enfin voilà, je suis encore en phase de découverte post-baptême, et donc là, je suis dans la phase d'insertion dans la communauté, justement, parce que moi, je viens d'une famille qui est relativement hostile au catholicisme. J'étudie dans des milieux qui sont assez hostiles aussi au catholicisme. J'ai très peu d'amis catholiques. Je les compte sur les doigts d'une main. Et vous savez ce qu'on dit, un chrétien seul est un chrétien en danger. C'est-à-dire que l'idée de communauté est essentielle pour vivre sa foi. On n'est pas catholique tout seul dans son coin. Et donc le travail que je suis en train de faire avec beaucoup d'autres catéchumènes, c'est de réussir à s'insérer dans ces communautés. Alors je suis encore en train d'explorer. Moi, à mon échelle, j'ai toujours été très bien accueilli par les paroissiens, par l'institution. Je n'aurais pas de critique à faire là-dessus. Après, peut-être que certains se sentent mal accueillis. Ça, il faudra leur poser la question.
Ben voilà. Donc, je lance un appel à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Si vous vous sentez mal accueilli dans votre paroisse, eh bien, n'hésitez pas, venez en parler dans Restons Courtois. Dans les choses que vous racontez, donc on a parlé de ce père volage qui, en fait, enseigne à ses enfants que la parole ne compte pas. Et vous avez des mots qui sont vraiment forts. Ces enfants le voient un week-end sur deux quand ces nouvelles conquêtes le lui permettent. Ils découvrent que l'amour paternel peut être conditionnel, négociable, révocable, que les promesses d'éternité prononcées devant l'autel n'engagent à rien face à l'ennui conjugal ou à l'attrait d'une peau plus ferme, que leur père préfère son plaisir égoïste à leur stabilité psychologique. Ça, vous décrivez vraiment un monde détruit.
Non, mais je pense qu'on a une crise de la paternité dans notre pays. On a beaucoup d'enfants qui grandissent sans père, beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants, parfois leurs familles nombreuses, qui doivent cumuler leur travail, plus les sorties d'école, plus la cuisine, plus les courses, etc. Et les enfants, on les fait à deux, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une logistique derrière qui est immense, et qu'on peut pas gérer tout seul sans aide. Et donc ces hommes qui abandonnent leurs enfants, en fait, on se rend compte que ça a des conséquences énormes sur la société derrière. Notamment dans la délinquance, je pense qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes qui tombent dans la drogue, dans les agressions et toutes sortes d'addictions aussi, du fait de ne pas avoir de modèle masculin à la maison. Et en fait, quand vous n'avez pas de père qui vous montre l'exemple à la maison en tant que jeune garçon, vous allez chercher des modèles masculins ailleurs. Ça va être par exemple des trafiquants de drogue ou des racailles que vous allez prendre comme modèle, alors que ce n'est pas les bons modèles à prendre.
Des c'est modèles pas... d'ailleurs qui reprennent un vocabulaire justement très, très paternel. Je vais te prendre sous mon aile, t'es mon petit frère. C'est une recherche de la langue qui n'est pas anodine justement dans cette forme d'embrigadement et de...
Et un habitus communautaire. Et là, on sent bien, ce mot communautaire, on l'entend beaucoup depuis le premier tour des élections et surtout le deuxième. Voilà, on sent bien que maintenant, les communautés sont constituées. L'un des nouveaux maires a remercié les Pakistanais qui l'ont aidé. Donc voilà, il est allé chercher une communauté précise et c'est cette communauté-là qui l'a servi. Je parle des municipales pour évoquer ces communautés, évidemment. Et ce communautarisme, il y avait un article dans Le Monde dont on a parlé dans la matinale sur la manière de blanchir son argent. Et donc Le Monde nous explique, en s'appuyant sur les documents de la police nationale, que les kebabs sont réservés aux maghrébins, que les épiceries sont réservées aux indiens et les barbiers, si je ne m'abuse, et qu'il y a encore un troisième type de communauté subsaharienne qui ont là aussi leur boutique préférée, enfin leur réseau de boutiques et leur type de boutique préférée pour avoir un trafic, mais toujours effectivement communautaire. Bon, j'arrive avec mes gros sabots. Vous avez été justement, vous, candidat aux élections municipales, vous êtes pris un râteau, d'ailleurs, vous étiez donc candidat dans le 18e arrondissement pour la liste Ciotiste. Donc là, évidemment, est-ce que c'était pas le bon arrondissement?
Non, après, j'y suis pas allé pour gagner.
Pour gagner.
Simplement, il y a des gens dans cet arrondissement qui sont de droite, qui votent pour la droite nationale, et il est normal qu'ils aient quelqu'un pour qui voter. Et dans le cadre de cette campagne, je suis allé au contact des gens, et il y en a beaucoup qui ont dénoncé ce communautarisme, y compris d'ailleurs des étrangers, ce qui est assez intéressant. J'avais une dame qui m'a arrêté sur un marché, une étrangère africaine, qui me disait, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait plus de Français dans l'école de mon gamin, quoi. Parce que impossible de s'intégrer et de s'assimiler quand on est dans un univers qui n'est pas français, en réalité. Vous parliez du communautarisme. Dans le 18e, on a un vrai sujet sur les commerces communautaires. C'est-à-dire que vous avez des rues entières, vous n'avez plus aucun commerce traditionnel. Vous avez la boucherie halal, vous avez la boulangerie musulmane, vous avez le bar à chicha, le kebab, etc. Et puis en fait, les gens se retrouvent complètement perdus. Ils ne se retrouvent plus dans cet univers-là. Et je pense que la promesse républicaine d'intégration, d'assimilation, qui est assez exigeante aussi pour les immigrés qui arrivent, mais c'est d'où que vous veniez, vous pouvez devenir français. Mais il y a un modèle français auquel il faut s'assimiler, auquel il faut adhérer pour être accepté et puis pour vivre parmi nous correctement. Voilà,
donc est-ce que vous feriez un parallèle entre cette conversion qui d'abord est un mouvement du cœur, une relation personnelle avec Dieu, mais une conversion au catholicisme qui privilégie justement la médiation ecclésiale, et un parallèle avec cet étranger qui peut devenir français ou qui, à défaut d'en avoir la nationalité, peut faire partie de la communauté française, mais à condition là aussi d'en apprendre les usages, d'en comprendre les coutumes, de saisir l'esprit des mœurs? On peut faire un parallèle entre les deux.
Vous savez, dans l'évangile, on vous dit d'accueillir l'étranger, mais on dit aussi à l'étranger de respecter le pays qui l'accueille et de respecter la religion du pays qui l'accueille et le pouvoir politique du pays qui l'accueille. Donc ce n'est pas du tout incompatible. Il y a beaucoup d'étrangers qu'on accueille très mal aujourd'hui, de ce fait. En 18e, par exemple, vous avez le sujet des marchands de sommeil. Vous avez des pauvres migrants qui arrivent de l'autre bout de la planète à pied, qui sont fatigués, qui sont usés par le voyage, à qui on a promis beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup de travail, etc. Il y a un accueil formidable, et puis en fait, ils arrivent et ils se retrouvent à fumer du crack dans le caniveau, quoi. Voilà, les marchands de sommeil, ils leur vendent des nuits dans des immeubles désaffectés, dans des logements sociaux assez dégradés, où ils vont payer pour 10, 15, 20 euros la nuit une nuitée. Donc je ne suis pas sûr que ce soit très humaniste et très charitable, justement.
Ouais, c'est tout sauf humaniste et charitable. C'est d'ailleurs là bien toute l'hypocrisie de cette bienveillance, pour reprendre le terme un peu à la mode, de l'accueil à foison, en fait. Parce que c'est juste ignoble d'accueillir des personnes dans ces conditions-là. Mais... moi, j'avais juste une question, pardon, mais je rebondis. C'était avant le passage sur les municipales, Richard. Vous avez parlé des lectures, très brièvement. Quelles sont les lectures, justement, qui vous ont accompagné dans votre raisonnement et dans votre conversion, que ce soit des lectures spirituelles ou même civilisationnelles, si je puis dire?
On a en France la chance d'avoir de grands auteurs catholiques. Il suffit d'aller chercher les livres proscrits, non enseignés dans l'éducation nationale. Mais je ne vais pas être très original, je vais vous dire Chateaubriand, bien sûr. Je vais vous dire Bernanos. Je vais vous dire l'orthodoxie de Chesterton aussi, qui m'a beaucoup aidé. Et sinon, on a beaucoup de grands saints en France. On a la chance d'avoir cette grâce-là, donc Saint Thérèse de Lisieux. Et c'est elle qui m'a fait comprendre en fait ce qu'était la liberté intérieure en tant que chrétien, parce que quand je suis allé à Lisieux visiter le Carmel, j'ai été assez étonné de voir un endroit très petit en fait, un tout petit jardin et un tout petit Carmel, alors que quand j'avais lu Histoire d'une âme avant d'aller à Lisieux, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui avait des horizons infinis. Et en fait, c'est ça, la liberté intérieure en tant que chrétien, c'est que voilà, même si on vit dans un monde assez étriqué, assez enfermé, ben en fait, on a une liberté à l'intérieur de nous qui est infinie.
Je m'apprêtais à lire le passage où vous parlez d'Abdoulaye, et en vous écoutant parler de la liberté, j'ai laissé tomber Abdoulaye, ce qui est nul, mais on va essayer de le retrouver. C'était un passage qui est tout à fait frappant où voilà, vous nous dites: sous la pluie parisienne pédalent les nouveaux prolétaires de l'économie numérique. Abdoulaye, sans papier malien de 23 ans, livre des sushis à la bourgeoisie du 7e arrondissement 10 heures par jour sur son vélo électrique 7 jours par semaine pour 800 euros mensuels. Pas de congés payés, pas de couverture sociale, pas de représentation syndicale. L'algorithme d'Uber Eats calcule ses trajets, comptabilise ses retards, évalue ses performances. Il n'est plus qu'un rouage interchangeable dans la machine logistique urbaine. Le soir, il partage sa chambre de bonne avec 3 compatriotes dans le même cas. Ils économisent chaque euro pour envoyer quelque chose au pays, survivent de pâtes et de conserves premier prix. Abdoulaye rêvait de la France comme d'une terre d'opportunités. Il découvre une société qui exploite sa misère pour lui faire accepter des conditions de travail que le droit français interdit aux salariés classiques. L'ubérisation de l'économie transforme des millions de travailleurs en tâcherons du 21e siècle. Ça, c'est cette hypocrisie-là aussi qui vous pousse peut-être à questionner ce milieu un peu hostile au catholicisme, ses camarades d'études qui considèrent que la foi est quelque chose de dépassé ou d'obsolète ou même juste de irrelevant, comme diraient les Anglais.
C'est la grande hypocrisie avec l'accueil de l'immigration, c'est qu'on ne fait pas venir des gens pour qu'ils aient une vie meilleure, on les fait venir pour avoir une main-d'œuvre de substitution qu'on va sous-payer par rapport aux Français, parce que ces pauvres gens, évidemment, vont accepter de faire tous ces travaux-là pour beaucoup moins qu'un Français. Voilà, donc on va leur demander de livrer effectivement des sushis ou des commandes. Il suffit de se balader dans Paris pour voir des gens avec des énormes sacs Uber Eats pédaler sur des vélos toute la journée sous la pluie battante pour livrer. Ça va être des femmes de ménage, ça va être des gens qui vont s'occuper des enfants, ça va être voilà, tous ces métiers-là qu'on ne veut plus payer correctement.
En fait. Mais au-delà de ne plus vouloir payer ces métiers correctement, c'est aussi, et ça rejoint ce que vous disiez, l'abandon du foyer. C'est-à-dire que, alors je ne remets pas en cause aujourd'hui le besoin d'avoir deux salaires pour vivre décemment, notamment à Paris, je ne remets pas du tout ça en cause, mais s'occuper des enfants, tenir un foyer, tenir une maison propre, faire des courses, préparer à dîner, c'est jusqu'à présent, a priori, la chose normale dans un foyer quand il y a deux parents responsables et engagés. Pour moi, c'est un espèce d'engrenage qui a été mis en place avec un abandon des responsabilités, un abandon du concret, un abandon de la réalité. Et ça rejoint aussi cette quête de sens, en fait. Plutôt que de se poser des questions et de s'interroger sur le sens qu'on veut donner à notre vie, on va chercher cette facilité de « je ne vais pas faire de courses, mais je vais commander à emporter, je ne vais pas chercher à m'occuper des devoirs de mes enfants, mais je vais prendre une jeune femme qui va s'en occuper et qui d'ailleurs ne parle pas la langue. Mais ce n'est pas grave, ça va être une ouverture d'esprit pour les enfants. » Bref, c'est une déresponsabilisation, si je puis dire, de ce que doit être la famille, sans parler de famille traditionnelle à proprement parler, mais juste de la place qu'on doit être en tant qu'homme et en tant que femme dans la société civile.
C'est au fond un individualisme poussé à son extrême, c'est qu'on ne veut plus souffrir, on ne veut plus faire de tâches contraignantes, on veut que tout soit simple, tout soit rapide, tout soit voilà, au service de mes désirs. Et au fond, c'est ça que l'Église enseigne, et c'est ça que j'ai adoré trouver dans la religion catholique, c'est aussi que le bonheur, il n'est pas instantané. Et il y a aussi de la souffrance, et il y a aussi des contraintes. Et ça va ensemble, et c'est ça justement qui permet sur le long terme d'être beaucoup plus heureux, parce que au fond, le grand paradoxe de tout ça, c'est que ces gens-là ne sont pas toujours très heureux. Et que plus on vit dans un confort matériel, où on peut se faire livrer ses courses en 3 clics, plus on se rend compte qu'en fait, on n'a plus de sens dans ce qu'on fait.
Cette foi qui vous anime et dont vous témoignez avec bonheur, et je parle, enfin, j'espère que vous êtes heureux d'en témoigner, mais je vais souligner le bonheur d'expression qui est le vôtre. Donc vous allez en parler demain, donc le 25 mars, demain à 8h30, à l'espace Bernanos. Donc c'est une soirée qui s'appelle Convertis, et où donc vous faites partie des invités, avec aussi Étienne de Montetti, auteur de Il y a une autre rive, et Antoine Pasquier, auteur de Enquête sur ces jeunes qui veulent devenir chrétiens. Qu'est-ce qui vous pousse à témoigner à ce point-là? Parce que, voilà, on l'a dit, vous avez été baptisé en 2025, vous êtes encore en cours d'intégration dans cette communauté catholique, et déjà, on sent que vous faites partie des têtes de gondole qu'on a envie de mettre en avant, comme quoi, oui, bien sûr, c'est pas simplement un article dans les journaux, comme quoi il y avait beaucoup de monde au mercredi décembre cette année, l'année dernière. Ce n'est pas un article sur l'augmentation des catéchumènes. En fait, on en tient un vrai, on va le montrer.
Tout à fait. Ben, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Ce livre, moi, je comptais pas le publier au début. C'est-à-dire qu'après mon baptême, j'ai commencé à écrire ça en me disant j'en ferai un petit livret et plus tard, je donnerai à mes futurs enfants. Je donnerai à mes proches, à mes amis, à mes parents qui ne comprennent pas forcément tout ce que j'ai vécu. Et en fait, au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui pouvait expliquer le mouvement des catéchumènes que personne ne comprend, que ce soit au sein de l'Église, que ce soit les laïcs, que ce soit les fidèles. Tout le monde se pose des questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi tant de gens quittent l'athéisme et rejoignent la religion catholique? Et c'est tout l'objet de ce livre, en fait. C'est de faire comprendre voilà, ce que j'ai vécu, mais surtout ce que j'ai cherché. Et puis ce que j'ai trouvé, et ce que l'Église peut encore apporter à notre société, et pourquoi tant de jeunes aujourd'hui, alors que rien ne s'y prête, décident de rejoindre l'Église. C'est ce que je vais expliquer, enfin, ce que je vais essayer d'expliquer demain soir.
Demain soir, voilà. Et donc, converti, mercredi 25 mars à 20h30, à l'espace Bernanos. Voilà, c'est un espace avec qui je ne peux pas dire qu'on a des relations privilégiées, mais qui souvent a une programmation tout à fait intéressante. Dans ce que vous nous disiez tout à l'heure, Joshua Collin, il y avait l'idée de lire des vies de saints aussi. Vous parliez des nombreux saints que la France avait accueillis. Et ça tombe bien, nous venons d'accueillir dans le studio. C'est incroyable, comme cette programmation est incroyablement intelligente et articulée. Nous venons d'accueillir Jacques de Guibon. Bonjour Jacques de Guibon.
Bonjour Richard.
Ouais, voilà.
Je suis désolé pour mon retard, mais vous avez eu le temps de parler de choses très intéressantes.
Tout est de la faute des tramways. Et vous avez décidé de rééditer un ouvrage remarquable. Enfin, évidemment, j'use et j'abuse de remarquable. Pardonnez-moi, je suis content de mes invités, je suis content de ce que je lis à chaque fois. C'est un vrai bonheur. Et là, c'est Agnès de la Gorce qui a raconté, il y a 100 ans maintenant, je crois.
Presque, oui.
Voilà, Benoît-Joseph Labre, un pauvre qui trouva la joie. Et vous avez fait un vrai travail d'éditeur en accompagnant la réédition de ce texte, d'un choix de texte, notamment de Falk von Gaver, qui parle de la poésie d'une manière flamboyante. Mais je voudrais d'abord citer votre introduction, parce que je pense que votre fibre sociale qui s'est révélée dans cet entretien, et évidemment dans votre livre, Nous, les nouveaux baptisés, c'est le tout début de votre introduction. Pourquoi Benoît-Joseph Labre? Parce que c'est un pauvre, parce que c'est un saint, parce que c'est un prophète, et aussi parce qu'il a inspiré l'engagement social de l'Église. Ces quelques qualificatifs devraient par eux-mêmes justifier l'existence de ce petit livre, apparemment très décalé et très inactuel. Benoît-Joseph Labre n'a jamais été vraiment à la mode de toute façon, non plus qu'il n'a jamais totalement disparu dans la mémoire des catholiques comme on va le voir. Et vous enchaînez, la magnifique biographie d'Agnès de la Gorce que nous rendons ici à nouveau disponible, près de 100 ans après sa parution, nous le livre à vif. Depuis sa ferme d'Amet jusqu'à sa sépulture romaine, dévorée par le remords et la peur du péché plus encore que par les poux, le Havre clochard se mue peu à peu, délivré des pesanteurs physiques, autant que psychologiques, en un saint lumineux, miraculeux, François d'Assise pour un autre temps. Certes, Labre ne réforma pas l'Église de son siècle, qui en eut pourtant tellement besoin, qu'on essaie seulement de mesurer l'abîme qui pouvait séparer le présomptueux cardinal de Bernis représentant le royaume de France à Rome, de ce loqueteux gisant au Colisée, où ses prières nocturnes rejoignaient dans le martyr les premiers chrétiens livrés aux bêtes.
Ouais. Merci, vous lisez très bien Richard.
C'est agréable de lire un texte bien écrit.
Merci beaucoup. Benoît-Joseph Labre, je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent encore aujourd'hui, c'est ce ce grand saint du XVIIIe siècle français, peut-être le plus grand saint du XVIIIe siècle français, comme disait Verlaine, qui est simplement un pauvre qui a voulu rentrer dans divers ordres, notamment la trappe, et qui à chaque fois a été rejeté, qui a décidé de marcher, enfin qui est devenu un clochard pèlerin qui a traversé l'Europe dans tous les sens, juste avant la Révolution française, pour finir à Rome. Voilà. Et il était réputé sentir mauvais, être pouilleux, dormir dans les ruines du Colisée. On lui jetait des pierres. En même temps, il accomplissait des miracles. Et voilà, le jour de sa mort, tout Rome s'est mis à crier au saint et à demander sa canonisation. Et voilà, c'est devenu ce merveilleux personnage qui est une sorte de précuré d'Ars, un petit peu pour l'ascétisme et pour la recherche de la perfection. Mais un curé d'Ars qui aurait été Girovague, voilà.
Vous connaissiez Saint-Benoît-Joseph Labre ?
Avant d'être converti, non.
Alors, et depuis votre conversion
J'ai découvert avec beaucoup de joie une fois dans l'église, oui, tout à fait.
Et est-ce que ça fait partie de saints contemporains pour leur refus des richesses, leur refus des honneurs, le goût de la pauvreté? Les prêtres ne savaient pas qu'il se confessait, les prêtres ne savaient pas qu'il communiait. Il était vraiment dans l'obscurité la plus totale et objet de mépris pour ceux qui auraient dû l'aimer. C'est quelque chose qui vous parle en tant que catholique, en tant que français?
Vous savez, je pense que tous les saints sont assez actuels, en fait. Ils peuvent être renouvelés au fur et à mesure que nous avançons dans la modernité. Vous savez, j'étais à la marche Saint-Joseph la semaine dernière, par exemple, samedi dernier. Nous étions 2500 hommes parisiens à Montmartre, puis ensuite au Saint-Sulpice pour une très belle messe. Et nous discutions de Saint-Joseph, nous disions, en fait, Saint-Joseph, c'est un très bel exemple de masculinité pour notre époque. C'était quelqu'un qui aimait sa femme, c'était quelqu'un qui a éduqué son fils, qui a mené sa famille avec exemplarité, c'était aussi un travailleur manuel. Et voilà, on se disait qu'en fait, plutôt que d'admirer Spider-Man, c'était mieux d'admirer Saint-Joseph, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de saints. On a eu aussi l'année dernière la canonisation de Carlo Acutis, saint du XXIe siècle, très engagé sur le digital également, qui parle beaucoup aux jeunes de notre époque. Donc je pense que tous les saints peuvent être renouvelés et qu'il faut les étudier parce qu'il y a beaucoup à apprendre d'eux.
Dans les deux minutes qui nous restent, Joshua Collin, est-ce que je suis passé à côté de quelque chose que nous, les nouveaux baptisés, peut apporter aux auditeurs de Radio Courtoisie ?
Écoutez, nous, les nouveaux baptisés, on est des nouveaux catholiques qui avons découvert la foi à l'âge adulte. Parfois, on vient de milieux athées, très hostiles. Et si on choisit de devenir catholique, c'est aussi un engagement très fort. Et je pense que les catholiques doivent s'engager à nouveau dans la vie de la cité, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les médias, dans l'associatif, dans la vie de leur paroisse. Parce que trop longtemps, ils sont restés assis sur leur petit trésor. Ils n'ont plus souhaité le partager. Et je pense, au contraire, que c'est quelque chose qu'il faut diffuser au maximum, parce que le monde moderne en a bien besoin.
Le monde moderne en a bien besoin, et ceux qui ont envie de continuer à écouter Joshua Collin témoigner de sa foi donc peuvent aller demain à l'espace Bernanos, donc à 20h30, pour écouter Converti, où Joshua Collin, Étienne de Montetti et Antoine Pasquier seront en train de débattre avec une débatteuse d'élite, Héloïse de Neuville, journaliste de La Croix, ce qui est bien la marque des choses bien intelligentes. Non, ça manque totalement de charité, pardonnez-moi. Voilà. Merci.
C'est une excellente journaliste. Hein.
C'est une excellente journaliste. Mais on sait que vous êtes de gauche, Jacques de Libon. Voilà, mais on va en parler juste après. Au revoir, Joshua Collin.
Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Au revoir.
Restons courtois, Richard de Sèze.
Et dans cette dernière demi-heure, toujours avec Marie-Charlotte du Bourblanc, que je remercie d'être aussi fidèle au poste, nous recevons Jacques de Guibon, écrivain, auteur, journaliste, voilà, qui a eu 1000 vies et qui compte bien en avoir éditeur, voilà, qui compte bien en avoir quelques-unes encore. Vous êtes à la fois l'auteur avec votre frère Baudouin de Prophètes sans armes, chrétien pacifiste et non violent, aux éditions des clés de Brouwer. On y reviendra tout à l'heure avec notamment un chapitre que j'ai trouvé tout à fait inspirant, c'est celui des frères Berrigan. Ou Berrigan, je ne sais pas comment on dit, on va dire Berrigan. Allez,
on va franciser parce que c'était sans doute français originellement, mais voilà.
Et aussi, donc, deux ouvrages. Alors, vous en publiez trois, mais il y avait un Claudel dans l'eau et j'aime pas Claudel, donc voilà.
Ah, bah, voilà autre chose.
Ben oui, non,
mais il est pas arrivé de chez l'imprimeur, donc c'est bien.
En plus, voilà. Vraiment, c'est très bien. Je n'avais qu'une peur, c'est que vous l'apportiez.
Vous préférez Claudel ou Bernanos?
Voilà. Donc, et il y a John-Henry Newman, Pertes et gains, et donc Agnès de la Gorce, Benoît Joseph Labre, un pauvre qui trouva la joie. Qu'est-ce qui vous pousse à rééditer Benoît Joseph Labre? Est-ce que c'est son actualité particulière ou parce que le texte d'Agnès de la Gorce vous a paru remarquable? Vous l'aviez lu il y a longtemps, maintenant que vous voilà éditeur, vous vous dites ça y est, c'est le moment?
Oui, enfin, il n'y a aucune actualité de Benoît Joseph Labre. Simplement, la 11e heure, c'est une maison qui se voue un peu à la diffusion de tout ce qui touche à la pensée sociale de l'Église. Et il se trouve que j'ai découvert un peu incidemment, enfin, des gens le savaient, mais moi, je ne le savais pas, que Benoît Joseph Labre est un des inspirateurs de la doctrine sociale de l'Église, même s'il a vécu un siècle avant, dans le sens où les fondateurs de la CFTC, donc le grand syndicat catholique français, viennent tous d'une association qui s'appelle les Amis de Benoît Joseph Labre, qui a été fondée après la guerre de 70, voilà, pour essayer de réformer l'Église catholique. Donc en fait, ils ont pris ce saint chômeur comme saint patron des travailleurs catholiques au moment où on a eu le droit de fonder enfin des syndicats contre le gré des méchantes républiques. Yep. Voilà. Et donc il se trouve que Benoît Joseph Labre, dans ce cas-là, rentre un peu dans le domaine de la 11e heure, de cette question de la pensée sociale de l'Église. Et par ailleurs, moi, c'est un saint pour lequel j'ai une longue dévotion depuis longtemps, que j'ai connu par mon ami Falk Van Gaver, que je salue, qui est aux Antilles, et dont on publie un texte de lui à la suite d'un texte d'Agnès de la Gorce. Et parce que Benoît Joseph Labre a cette autre vertu de pauvre, d'avoir inspiré à peu près tous les poètes symbolistes de la fin du 19e siècle français, au premier rang desquels Paul Verlaine, évidemment, et Germain Nouveau, qui est beaucoup moins connu, mais qui est un petit peu l'alter ego de Rimbaud, de Rimbaud catholique, en fait, voilà, qui est un peu le successeur de Rimbaud dans les affections de Verlaine, et qui a lui-même fini extrêmement pauvre, Germain Nouveau, dans une cabane avec une chaise au fin fond de la Provence, tellement il avait voulu suivre l'exemple de Benoît Joseph Labre. Voilà, donc en fait, il n'y a aucune actualité, sinon que c'est un saint merveilleux qui a inspiré beaucoup de choses françaises, malgré son état de vagabond.
Beau paysan, ange d'Amet, ayant aujourd'hui pour trépied la lune au ciel et la comète, et tous les soleils sous vos pieds, couverts d'odeurs délicieuses, vous qui dormiez sous les lieuses, vous que l'Église aux mains pieuses peint sur l'autel et le guidon, priez pour nos âmes, ces gouges, et pour que nos cœurs, là des bouges, lavent leurs péchés noirs et rouges dans les piscines du pardon. Germain Nouveau. Et quand on lit Agnès de la Gorce, on a l'impression vraiment d'une intimité de la biographe avec son modèle. Ça fait partie de ces biographies inspirées où on sent que l'auteur est touché par cette vie qu'il a rencontrée.
Oui, en plus, ils ont une géographie d'origine commune. La famille de la Gorce, c'est une famille du Pontieux, enfin du nord de la France, pas loin d'Amet, de là d'où vient Benoît Joseph Labre, qui vient donc d'un petit village du Pas-de-Calais totalement perdu. Donc elle connaît bien ces paysages, elle les décrit, c'est un petit peu bernanosien, pour vous faire plaisir, voilà. Comme Bernanos, quand il décrit ses chemins noirs d'Artois, etc., elle décrit très bien ces chemins du Pas-de-Calais, d'où est venu Benoît Joseph Labre et d'où il s'est échappé en faisant le tour de l'Europe. Oui, donc elle a un style qui n'est pas du tout, je trouve, sulpicien. Cette biographie date de 1933, je crois. Voilà, c'est une grande biographe catholique qui est un petit peu oubliée et qui est morte dans les années 70, voilà, et dont la famille a bien voulu nous concéder les droits pour qu'on reprenne ce livre et qu'on essaye de faire revivre un petit peu son œuvre qu'il mérite, je pense. Voilà.
Absolument, en tout cas, c'est Benoît Joseph Labre, Un pauvre qui trouva la joie, donc aux éditions de la 11e heure, très beau livre, qui permet de découvrir un saint et surtout avec ce petit dossier qui permet de découvrir le reste, si j'ose dire, de Benoît-Joseph Labre à travers l'inspiration qui a été la sienne. Louis Veuillot en parle, Barbé d'Aurevilly.
Voilà, ça doit vous plaire,
mais,
ça.
Attends, mais c'est inspiré. Barbé d'Aurevilly énormément.
Voilà, et Veuillot aussi, c'est un petit peu votre nom.
Bah, voilà, je le range avec Bernanos et Claudel.
Ah bon, vous n'avez pas Veuillot non plus, d'accord. Pourtant, voilà. Je pensais que c'était un ultramontain légitimiste qui devait vous plaire, mais voilà.
C'est son style, pour le coup.
Oui, il est moins doué qu'un Barbé.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, pour ce qui est des opinions, elles sont parfaites. Et pour ce qui est de son catholicisme social, il est très très bien aussi. Vous avez réédité en même temps un ouvrage de John-Henry Newman, Pertes et gains, qui est tout à fait amusant, puisque contrairement à Joshua Collin, c'est à 45 ans que Newman se convertit et il est déjà célèbre. C'est un anglican de haute volée qui a des fonctions considérables et surtout qui est considéré dans l'église anglicane. Et coup de tonnerre dans un ciel serein, un peu comme Lionel Jospin décidant d'adhérer au Front National, voilà que Newman décide de devenir catholique, ce qui est un peu à l'époque l'abomination, la désolation quand on est gentleman. Et d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs une déchéance totale, puisque les catholiques à l'époque sont privés de certains droits civiques, ne sont évidemment pas considérés. Georges III a répudié sa femme catholique et personne n'y a trouvé aucun mal. Et donc il a conclu un mariage, d'ailleurs en étant bigame lui-même. Et tout le monde trouvait que puisque c'était une catholique qui était l'objet de sa répudiation et de sa bigamie, tout ça n'avait peu d'importance. Et donc Newman, du jour au lendemain, devient catholique. Et la première chose qu'il fait, tout en continuant d'écrire des choses intelligentes, c'est de publier un roman, et en fait, qui est une espèce de roman très anglais. Il raconte la ville d'Oxford, il raconte la manière dont un groupe d'étudiants et de professeurs sont en train de discuter justement des mérites de la vie universitaire et évidemment de Dieu, qui à l'époque n'était pas un gros mot et avait le droit de citer en Angleterre.
Oui, c'est un roman vraiment étonnant. Ah, pour le coup, il a une certaine actualité, puisque le cardinal Newman vient d'être proclamé docteur de l'Église par le pape Léon XIV. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de reprendre ce roman, qui était introuvable depuis quasiment 150 ans, en fait, qui avait été méchamment traduit par un chanoine au XIXe siècle. Donc là, c'est une excellente traduction de Camille Dalmas, qui avait déjà traduit Chesterton chez nous, voilà. Je vous conseille, avec une très belle préface de Didier Rance, qui est un grand spécialiste de Newman et du catholicisme anglais. Mais il y a une actualité de Newman, mais c'est vrai que ce livre, Pertes et gains, nous paraît provenir d'une galaxie très très lointaine, il y a très très longtemps. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que j'aime aussi dans la littérature. Je suis assez contre l'actualité de la littérature immédiate dans laquelle on doit se reconnaître. Là, il nous parle d'étudiants d'Oxford, comme vous l'avez dit, des années 1820-1830, qui ont des mœurs et des propos et des débats qui sont d'une volée, je pense, quasiment inimaginable pour notre contemporain. Donc, il met un peu en scène toutes sortes de sectes protestantes, anglicanes, qui débattent entre eux, avec son personnage qui est son alter ego, évidemment.
Il s'appelle Smith, comme n'importe quel héros de Chesterton.
Voilà, c'est ça. Qui est ce jeune homme, fils de pasteur, qui est envoyé à Oxford pour faire ses études et qui doit reprendre la charge de son père, normalement, et qui est extrêmement naïf, mais intelligent, et qui se retrouve à se poser des questions sur la véritable Église. Est-ce que c'est l'Église anglicane ou anglo-catholique, comme ils disent, ou est-ce que c'est l'Église de Rome qui, comme vous l'avez dit, est tenue en abomination à cette époque-là par les Anglais, et surtout par les Anglais surtout de l'aristocratie, qui considère qu'être catholique, c'est être un vague pecnot qui ne sait pas se tenir et qui ne sait pas parler, qu'on ne peut pas devenir catholique, même si,
c'est bon
même
pour
si
les
la
Irlandais.
Vérité était là-dedans, on ne pourrait pas, parce qu'en fait, c'est vraiment trop, trop méprisable. Voilà. Donc ce personnage traverse pendant 600 pages diverses phases de conversion, il y a des dialogues incroyables, enfin voilà, il y a une finesse psychologique aussi merveilleuse, et Et c'est Ivan Newman a raconté sa conversion aussi dans des livres plus biographiques.
Oui, Apologia pour vite à soi.
C'est ça, oui, ou La grammaire de l'assentiment. Et là, c'est vraiment une mise en scène romanesque. Donc c'est une sorte de littérature assez rare quand même de roman de conversion, mais qui raconte la conversion de l'auteur qui est aussi, enfin qui est un narrateur qui se déguise, mais c'est assez rare. Peut-être qu'il y a, ce serait un peu le Saint-Augustin de, mais même Saint-Augustin se met pas en scène dans un roman en fait. Ce serait un Saint-Augustin romanesque.
Voilà, et ouais. Avec dire quelque chose qui est propre au roman et qui évidemment fera partie des choses qu'on reprochera à Newman, il est drôle.
Ah oui, c'est un anglais, donc forcément il est drôle, mais d'un humour, d'une finesse assez étonnante. Voilà, voilà.
Et donc les gens étaient très surpris. Normalement, Monsieur Newman aurait dû produire un ouvrage extrêmement élevé, et donc aussi bien évidemment les anglicans qui regrettaient sa défection que les catholiques un peu coincés ont trouvé ont un peu tordu le nez, mais l'ouvrage
a eu un succès gigantesque, un succès fou. Parce que pour la petite histoire, il l'a écrit aussi pour faire plaisir à un de ses amis, pour aider un de ses amis éditeurs qui était lui-même devenu catholique et qui donc avait perdu tout son lectorat et était banni de la bonne société, qui lui demande ce texte. Donc Newman, qui est un homme bon, puisqu'il est saint, lui accorde bénévolement pour renflouer sa maison d'édition, ce qui marche en fait, et parce que c'est un succès gigantesque, c'est réimprimé des dizaines de fois, et voilà cet éditeur sauvé par le cardinal Newman.
Et voilà, je ne garantis pas que nous serons tous sauvés en lisant Pertes et Gains de John-Henry Newman, mais en tout cas...
mais on peut au moins aider une maison d'édition aussi.
On peut aider la deuxième heure. Merci de s'y aller. Et il nous reste un peu de temps. Vous êtes à côté de ces activités d'éditeur, vous êtes aussi écrivain, vous avez déjà écrit plusieurs livres. Ce coup-ci, c'est avec votre frère, donc Baudouin, que vous nous parlez d'une série de catholiques, ou plutôt de chrétiens d'ailleurs, et même de gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Tolstoï et Gandhi, Martin Luther King, Lanza del Vasto, Dorothy Day, Simone Veil, les frères Berrigan et Desmond Tutu. Alors évidemment, je ne m'imaginais pas un jour faire l'éloge d'un bouquin où Martin Luther King, Gandhi et Desmond Tutu côtoyaient Simone Veil. Lanza del Vasto, mon professeur de troisième, nous avait fait lire Pèlerinage aux sources, donc j'avais un préjugé favorable dû au fait que j'étais innocent quand j'étais au collège.
Vous avez raison. D'ailleurs, Lanza del Vasto, on dit que c'est l'homme dont Simone Veil aurait été secrètement et follement amoureuse, en fait, voilà, sans qu'il se passe jamais rien, qu'on sache en tout cas, mais avec Simone Veil, je pense qu'il se passe jamais rien de cet acabit-là, voilà. Mais c'est... Je vois pas pourquoi vous auriez du mal à dire du bien d'un livre avec Martin Luther King, qui est un pasteur, évidemment, certes, qui n'est pas catholique, mais enfin, qui est un très bon chrétien et qui est mort pour défendre sa cause,
et qui
était noble, cette cause,
je pense. Et voilà, qui est la cause de la paix. vous avez lancé ce livre et un reportage a été réalisé et nous allons l'écouter.
Reste en courtois, Richard de Sèze.
Prophète sans armes, qui sort aujourd'hui en librairie, que j'ai coécrit avec mon petit frère Baudouin, Guilbon. Le sujet, c'est que on s'est dit que la question de la paix, du pacifisme, de la non-violence était étonnamment un peu oubliée en Occident depuis une trentaine d'années, alors que c'est un sujet très important, notamment dans le monde des chrétiens et du catholicisme. C'est un sujet dont les papes et les évêques parlent sans cesse, mais on a l'impression qu'aujourd'hui les gens sont plus passionnés par comment faire une guerre, avec quels avions, quels tanks et qui bombarder en fait.
C'est un ouvrage, ça faisait un moment qu'on y réfléchissait avec Jacques à cette question du pacifisme, cette question de la paix qui est surtout a été relancée en fait aussi par le premier discours du pape, Léon XIV, qui a prononcé lors de son élection, que la paix soit avec vous. Et donc l'idée était vraiment de retrouver un peu cet imaginaire de la paix, un imaginaire qui pour nous semble essentiellement chrétien. Et on a essayé justement de retracer, non pas théoriquement, l'idée de la paix, mais à travers des figures de personnalités qui vont de Gandhi à Dorothy Day aujourd'hui.
On l'a appelé prophète sans armes, c'est un terme qu'emploie Machiavel à propos de Savonarole. Machiavel qui, quand il débarque à Florence, passe juste après Savonarole et il voit que Savonarole a échoué dans sa volonté de réforme de Florence. Et il explique que voilà, tous les prophètes sans armes comme Savonarole sont voués à l'échec, alors que les prophètes armés réussissent.
Il y a une critique du pacifisme qui est qu'effectivement, ça serait juste une sorte d'idéologie un peu facile qui s'opposerait au réalisme politique, la vraie politique qui, elle, ne peut pas se satisfaire de ces idéaux-là. Nous, je pense qu'on a essayé de montrer que les pacifistes en question, que ce soit Dorothy Day, que ce soit Martin Luther King ou Desmond Tutu, étaient des personnalités vraiment engagées dans la vie politique de leur époque et que leur engagement par la paix a été et a permis justement de parvenir à un pacifisme en action, je pense.
Nous, on s'est expliqué que ça devrait être la pensée de tout chrétien, notamment, et je pense de tout occidental, en fait, d'aller rechercher cette question de la paix, et que les gens de droite ne sont pas tenus d'aimer la guerre, les armes, et de vouloir tuer leurs prochains, en fait, au contraire. Enfin,
alors, on dit quelque chose, c'est un auteur du début du XXe siècle qui expliquait dans son livre sur le pacifisme, justement, que le Christ n'était pas celui qui nous donnait un programme de paix, mais celui qui nous donnait des méthodes pour arriver à la paix, des méthodes pacifiques. Et comment il nous donne ces méthodes-là? La première, c'est tout simple, c'est l'amour du prochain. Et ensuite, c'est tout le sermon sur la montagne qui va inspirer justement tous ces pacifistes des années 60, que ce soit aux États-Unis, mais que ce soit aussi ces pacifistes qu'on n'a pas pu mettre dans ce livre-là. Je pense à Dorothy Stang, par exemple, en Amazonie, qui a essayé d'œuvrer pour la défense des ouvriers et des personnes qui souffraient de l'accaparement des terres dans ces zones-là. Et un peu le signe, le croisement pour toutes ces personnalités, pour nous, a été de découvrir justement qu'ils avaient l'évangile au cœur de toutes ces pensées-là, même chez Gandhi, qu'on pourrait croire complètement étranger à cela. Chez Gandhi, par l'entremise de Tolstoï, par l'intermédiaire de Tolstoï, il y a justement cette idée que le Christ est la figure du prince de la paix, en quelque sorte, qui s'opposerait au prince du mal et aux forces du mal sur Terre.
Reste en courtois, Richard de Sèze.
Alors, s'opposer aux forces du mal sur Terre, ben, voilà quelque chose qui paraît sinon simple à mettre en œuvre, mais en tout cas, on ne peut qu'adhérer à la chose. Vous commencez ce livre par une introduction où vous rappelez que les papes, et notamment les deux derniers papes, sont évidemment assez puissamment opposés à la guerre. Il y a une pétition qui circule en ce moment pour dire à tous les guerriers chrétiens de refuser l'usage de l'arme atomique.
Je ne savais pas, mais c'est une très bonne idée. C'est le collectif Anastasis qui l'a lancé, non, c'est pas ça?
J'avoue que j'ai appris l'existence de la pétition, mais que je ne suis pas allé la signer. Non pas que je ne sois pas chrétien, mais en tout cas, je me sentais moins concerné. Et cette idée de défendre la paix et la cause de la paix, donc vous êtes allé la chercher à travers des exemples remarquables. On ne peut pas tous les citer. Celui qui m'a le plus parlé, c'est l'histoire de deux frères qui deviennent prêtres, l'un un peu plus intello que l'autre. Ils sont tous les deux joséphites, qui est une congrégation religieuse dont la foi est moins intellectuelle que celle des jésuites, mais avec quand même une formation très sérieuse.
Il y en a un qui est joséphite et l'autre qui est jésuite, justement.
Oui, c'est vrai. L'un est joséphite et l'autre est jésuite. Voilà. Daniel est jésuite, Philippe appartient à l'ordre des joséphites. Et c'est d'ailleurs en fréquentant la France de l'après-guerre 39-45, touché par le mouvement des prêtres ouvriers et les discussions bouillonnantes de l'époque, que Daniel et Philippe Béringhan reviennent plutôt de gauche et surtout plutôt pacifistes.
Oui, c'est la France de la guerre d'Indochine et puis de la guerre d'Algérie aussi qui les touche, oui, avec des grands débats au milieu des catholiques et des chrétiens français, comme vous le savez, sur l'usage de la répression, l'usage de la torture, enfin quel type de guerre on peut faire dans ces colonies, est-ce qu'il faut garder ces colonies, voilà, c'est ça qui va les toucher. Et en fait, quand ils retournent aux États-Unis, il se trouve que, comme chacun sait, les États-Unis nous succèdent dans l'ancienne Indochine, pour la guerre du Vietnam. Donc c'est ça à quoi ils sont confrontés en tant que prêtres et en tant que catholiques, sachant que la guerre du Vietnam américaine est vraiment une sale guerre, contrairement aux guerres françaises, évidemment, comme on sait, puisque la France ne fait jamais de sale guerre. Non, ça, c'était pour rire, mais voilà, en tout cas, l'usage du napalm n'a presque jamais eu lieu, je pense, par l'armée française, il faudrait vérifier, mais en tout cas, pas de manière industrielle comme l'ont fait les Américains, et c'est ça à quoi ils commencent à s'opposer, ces deux frères, et donc de manière non violente, évidemment, puisqu'ils prêchent la paix et la cessation de ce conflit absurde. Et ils sont de grands amis, des grands inspirateurs, notamment de Howard Zinn, qui, je ne sais pas si vous avez vu ce film Pentagon Papers, merveilleux, où des journalistes américains révèlent que McNamara, le chef, le secrétaire à la défense américaine, je ne sais pas comment ça s'appelle, savait depuis 1965 que cette guerre serait perdue, mais continuait à envoyer des boys mourir là-bas et tuer des Vietnamiens. Donc ils font partie de ce petit mouvement qui ont révélé ces choses-là, notamment dans la presse, et qui ont changé un peu la face du monde sur la vision de cette guerre.
Alors, donc, ils en parlent, ils écrivent, ils ont rencontré Dorothy Day, ils sont très actifs, et à un moment donné, ils se disent « ça ne suffit pas ». Et donc, le 17 mai 1968, 8 des 9 entrent dans ce bureau, le bureau du Selective Service, le service en charge de sélectionner les conscrits, et le dernier est resté en bas pour faire le guet. Ils écartent l'employé qui veut les arrêter, saisissent 378 formulaires, les jettent dans des poubelles qui descendent dans le parking, arrosent d'un napalm artisanal avant d'y mettre le feu, récitent un autre père et expliquent qu'au Vietnam, le pays tue, massacre, décime des populations entières, brûle des enfants et s'enfonce dans une guerre absurde. La police arrive, saisit les protestataires, les conduit en prison. Depuis leur geôle, ils font envoyer des fleurs et une lettre à l'employé, donc ils avaient un peu malmené, en disant « Que Dieu nous pardonne, nous ne pouvions faire autrement. Les temps sont révolus où les hommes de bien peuvent continuer de se taire, où l'obéissance peut protéger l'homme de tous les dangers, où le pauvre peut mourir sans qu'on le défende. Les temps sont révolus. » Et les Beringham, ensuite, vont devenir vraiment totalement insoumis. Ils s'évadent.
Ils s'évadent, ils se cachent dans un théâtre déguisé. Enfin, c'est des scènes de films, en fait, poursuivies par le FBI dans tout le pays.
On attend le scénario. C'est vraiment... C'est incroyable. Ils sont engagés dans tout ce que l'Amérique compte de communautés alternatives. D'ailleurs, ils continuent à donner des interviews en trompant le FBI pendant longtemps. C'est raconté comme pour de vrai, et donc il y a même des choses, ils se font attraper pour des détails stupides, c'est vraiment remarquable. D'ailleurs, ils sont tellement engagés dans ce pacifisme, et une fois plus au nom du catholicisme, au nom de l'amour de Dieu, au nom de l'amour qu'on doit porter à ses frères, au nom évidemment de ce que défendent plusieurs papes, les plus récents, mais évidemment d'autres papes avant, mais avec toujours cette idée de guerre juste ou pas de guerre juste. Et au point que Dorothy Day, par exemple, du Catholic Worker, les désapprouve parce qu'ils sont presque violents, si j'ose dire, dans leur pacifisme, selon elle.
Oui, selon elle, en fait, elle trouve que leur manière d'aborder le pacifisme et la non-violence se fait dans un vacarme et un langage qu'on pourrait prendre pour une violence. Voilà. Donc elle est vraiment jusqu'au boutiste sur le désarmement des langues aussi, un peu comme ce que nous dit le pape Léon XIV pour le carême, une des choses auxquelles il nous a appelé, en fait, de désarmer aussi les langues et les bouches. Voilà. Donc elle essaye de les reprendre un peu là-dessus, mais c'est aussi une question de génération. Ils sont plus jeunes qu'elle, je pense qu'ils sont plus fougueux, ils sont vraiment engagés dans leur lutte contre cette guerre-là. Et que je sache, il n'y a jamais vraiment d'actes violents chez eux. Ils cherchent à se réfréner, même s'ils ont un caractère assez fort et assez vigoureux. Mais en tout cas, ils font la nique au FBI, la première nation du monde, pendant plusieurs années. Quoi. C'est assez fascinant.
Ouais. Le côté piniclé est absolument... Alors, c'est raconté très vivement, je crois que c'est votre frère qui a écrit ce chapitre-là. C'est raconté avec vivacité et on sent une empathie de Baudouin de Gibbon avec les frères Beringham. Et ça se termine par l'un des conseils que les frères Beringham donnent à ceux qui veulent lutter. Commencez par l'impossible, continuez calmement vers l'improbable, ne vous troublez pas, il y a toujours au moins 5 sorties possibles.
Voilà. Oui, c'est merveilleux. C'est parfait. Mais oui, on a un scénario d'un film Chestertono, je ne sais quoi, en fait, voilà, avec des curés rebelles et qui sont prêts à tout quasiment pour arriver alors, à arrêter la guerre.
Voilà. Votre frère le disait, en faisant ce tour du monde des catholiques du XXe siècle engagés dans le pacifisme.
On va dire des chrétiens d'ailleurs.
Des chrétiens, pardon, excuse-moi, j'ai dit catholiques en permanence, et des gens qui ne sont pas de chrétiens du tout, on va indire à Gandhi, Gandhi tout court, pardon, c'est Gandhi, non.
Mahatma. Il est chrétien, si, vraiment, il est inspiré, comme on essaie de le montrer, totalement par Tolstoï, même, ou par Chesterton. Enfin, il a une éducation totalement chrétienne, puisqu'il vit dans l'époque de la colonisation anglaise, et même s'il veut toujours rester hindou par fidélité à sa nation, sa morale et sa pensée sont vraiment celles d'un chrétien. En fait, il n'aurait jamais existé, je pense, s'il n'avait pas été éduqué chez les chrétiens.
Comment les avez-vous sélectionnés?
On est parti de Tolstoï, puisqu'a priori, c'est le premier théoricien de la non-violence, en tout cas à l'époque moderne, hein, de vraiment qui, Tolstoï qui se réveille un matin et qui bannit toutes ses richesses, tout ce qu'il a, et qui appelle à une manifestation politique non-violente en disant que les chrétiens ne peuvent manifester que comme ça. Après, on a essayé de prendre un certain nombre de femmes, donc pour faire un peu de parité, mais
c'est très bien.
Voilà.
Et vous avez mis des gens un peu célèbres pour, voilà, pour non, faire en sorte non. que les journalistes puissent en parler.
C'est ça. Mais non, mais surtout dans les causes justes et la manière de les mener, on a dû rejeter des gens. Au début, on partait sur Nelson Mandela. En fait, Mandela a eu une période non violente, mais aussi une période violente. Donc il y a un moment où il se dit, faut prendre les armes pour arriver à mes fins. Donc on l'a écarté, on l'a plutôt remplacé par Desmond Tutu qui et le grand évêque d'Afrique du Sud, qui lui est resté toujours fidèle à la non-violence. Donc c'est surtout comme ça qu'on les a sélectionnés, des gens qui, le principe du pacifiste et de la non-violence, c'est non seulement d'arriver à la paix, mais tout le monde veut arriver à la paix, comme dit saint Augustin dans la Cité de Dieu, même Adolf Hitler, je pense, veut arriver à la paix. Le pacifiste, c'est celui qui va prendre les moyens, qui va arriver déjà à une paix bonne, en fait, une paix juste, qui n'est pas celle qui écrase son voisin, comme le traité de Versailles a pu le faire, par exemple, en 1918, qui créera encore pire après. Donc c'est d'arriver à une paix qui soit juste, et c'est celui qui prend surtout les moyens non violents et les meilleurs moyens pour arriver à cette paix. Donc c'est là-dessus qu'on a essayé de les sélectionner.
Et donc Prophète sans armes, donc, aux éditions des Clés de Brouwer, voilà, une dizaine de portraits. En les cherchant, en les analysant, est-ce qu'il y a un de ces portraits qui vous a particulièrement ému, une figure qui vous a plus touché que les autres?
Alors, moi, je suis très touché par Simone Veil, mais comme un peu comme tout le monde. Mais là, c'est ceux qui...
Pardon. Excusez-moi, non, c'est fini. Pardon. Ah, je suis nul. J'étais persuadé que j'avais jusqu'à 30. Voilà. Bon, eh ben,
on en parlera une prochaine fois.
Merci beaucoup, Jacques de Guibon, de nous avoir accompagnés ce soir. Et demain, chers auditeurs, c'est Arthur de Vatrigan qui vous recevra dans Restons Courtois.
Ça suffit maintenant.